Vous écoutez Quoi de Meuf, le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture. C'est une discussion à deux, chaque semaine, accompagnée de l'une de mes acolytes. On parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo. C'est parti ! Bienvenue dans cet épisode court consacré à un objet culturel. Alors, quarantaine oblige, je n'ai pas de chroniqueuse avec moi cette semaine, mais on ne se laisse pas abattre pour autant. Ces dernières semaines, on s'est beaucoup demandé à quel saint se vouer et quels objets consolateurs on pouvait se mettre entre les mains. On a vu circuler sur les réseaux sociaux des titres comme « Une chambre à soie » de Virginia Woolf, mais aussi des images de Marcel Proust écrivant recroquevillé dans son lit à la lumière de la bougie qui paraissent tout indiquer en cette période. Alors si, comme nous, vous faites partie de la sacro-sainte Mona Chollet Appreciation Society, vous avez sans doute lu son ouvrage « Sorcière ». Et on vous invite cette semaine à lire ou à relire « Chez soi, une odyssée de l'espace domestique » qui est paru en 2015.
Être chez soi, se laisser vivre, c'est aussi retrouver une sorte de lenteur et de, peut-être de logique un peu différente en fait, dans la manière dont on vit le temps et dont on vit tout court, quoi.
La journaliste du Monde diplomatique part de sa propre expérience pour mêler ensuite essais et récits personnels pour s'interroger. Quel regard sur le monde porte-t-on depuis chez soi ? On peut également chercher dans ce livre un refuge et peut-être un abri en ces temps houleux. Sachez également que celui-ci est disponible et accessible gratuitement en ligne chez les éditions La Découverte. On mettra le lien en descriptif de l'épisode. En voici un extrait.
On insiste à raison ô combien sur la nécessité de se réapproprier l'espace public. Mais on l'oppose de façon simpliste à un univers domestique qui, dans l'esprit de beaucoup, ne fait naître que des images peu glorieuses de replis frileux. D'avachissement devant la télévision en pantoufles Mickey, d'accumulation compulsive d'appareils électroménagers et d'indifférence résolue au monde. Le logement se réduirait soit à une simple contingence, un problème pratique à régler, soit à un piège ouaté et castrateur. Or, dans une époque aussi dure et désorientée, il me semble au contraire qu'il peut y avoir du sens à repartir de nos conditions concrètes d'existence, à repartir de ces actions, à peine des actions en réalité, et de ces plaisirs élémentaires qui nous maintiennent en contact avec notre énergie vitale, traîner, dormir, rêvasser, lire, réfléchir, créer, jouer, jouir de sa solitude ou de la compagnie de ses proches, jouir tout court, préparer et manger des plats que l'on aime. À l'écart d'un univers social saturé d'impuissance, de simulacres et d'animosité, parfois de violence, dans un monde à l'horizon bouché, la maison desserre l'étau. Elle permet de respirer et de se laisser exister, d'explorer ses désirs.
Merci à Ashley Tola pour la lecture de cet extrait. Alors, puisque nous sommes condamnés, semble-t-il, à la musique de chambre, à l'introspection et à l'aménagement d'une vie intérieure, c'est donc l'occasion de s'interroger sur son rapport au « chez-soi ». Mona Chollet est partie de sa propre condition d'introvertie pour rédiger cette ode casanière qui redonne une dimension dynamique, voire carrément épique, à la solitude. Elle-même se décrit comme une sorte d'ermite sédentaire qui a longtemps refusé de vivre en couple et qui se languit du temps mort, trésor vital des casaniers. Elle raconte d'ailleurs que depuis l'enfance, elle chérit les lieux arpentés au quotidien et usés par la routine.
Casanier, mes fenêtres ouvertes sur le monde entier.
Et dans le livre, elle entreprend de renverser le stigmate à l'encontre des pantouflards et pantouflardes, trop souvent accusés de repli, de frilosité, d'étrangeté, mais aussi d'être timorés, peu curieux ou trop passifs. Au contraire, selon elle, c'est peut-être la suractivité et le voyage qui seraient suspects. D'ailleurs, elle rappelle que le voyage ne suffit pas à faire le voyageur. À l'inverse, c'est plutôt l'art d'habiter qui nous rendrait humains. Elle s'inspire à ce sujet des travaux du philosophe Gaston Bachelard, pour qui la maison abrite la rêverie. Cette réclusion serait donc désirable, voire nécessaire pour s'abriter et, je la cite, « s'affranchir du regard et du contrôle social ».
Ça sent la maison, mais on trouve que ça sent bon.
Alors évidemment, Mona Chollet ne s'arrête pas en si bon chemin. Elle part en fait de sa propre expérience pour ensuite s'interroger sur la politique de l'espace privé, en lien avec le capitalisme et les privilèges, pour aborder l'épineuse question du logement. Elle parle notamment de la crise des subprimes aux États-Unis ou encore du mouvement réductionniste des tiny houses. On l'a vu avec le drame de la rue d'Aubagne à Marseille. D'ailleurs, à ce propos, je vous renvoie vers la série d'été du podcast Splash. Elle explique que la plupart des gens vivent en fait dans des logements précaires, insalubre ou trop petit, et qu'il faut avoir les moyens pour pouvoir divorcer ou quitter ses parents. Elle évoque aussi la fonction symbolique et pas simplement pratique du logement, par exemple le fait d'hériter, mais aussi le fait de s'imposer dans l'espace public avec des vieilles pierres, ce qui n'est pas anodin. Et elle rappelle que 11 millions de logements sont vacants en Europe, soit deux fois plus que le nombre de sans-abri selon les chiffres de 2014.
Shame. Shame.
Alors, est-ce que dans ce contexte, l'accès à la propriété peut être une solution durable ? Évidemment non, selon elle, puisqu'un aspirant propriétaire fera un citoyen moins revendicatif, car retranché du monde et qui nourrit la défiance et l'individualisme, au lieu d'une atmosphère égalitaire et pacifiée de partage des ressources qui profiterait à tous. Elle évoque d'ailleurs l'idée avancée par un groupe de chercheurs français proches du Parti communiste en 2001, d'un service public du logement, car, je la cite, « un logement digne de ce nom ne devrait pas représenter un but, une finalité, mais un point de départ ». Alors une autre idée qui est développée dans Chez Soi, et on en revient toujours comme d'habitude aux chaussettes sales qui traînent, c'est l'idée que la domesticité n'est pas naturellement un cénacle féminin, mais que c'est surtout le 19e siècle qui a forgé l'image de la fée du logis qu'on connaît aujourd'hui. On l'écoute.
J'ai beaucoup de mal à croire les femmes qui disent « je reste chez moi et j'élève mes enfants et je me contente du rôle de compagne et de mère parce que c'est ce dont j'ai envie ». Je veux dire, quand on est quand même... Quand on continue quand même à baigner dans une culture qui, en dépit de tout, valorise énormément ce modèle-là, je crois qu'on ne peut pas ignorer qu'on est quand même sous influence.
En effet, il faut se rappeler qu'au début du XXe siècle a eu lieu ce qu'on a appelé une crise de la domesticité en France, puisque le monde du travail et la vie privée se sont transformés. Selon l'enquête sociologique du Ballet de François-Xavier de Véter et Sandrine Rousseau, on a assisté à une division du travail accru, c'est-à-dire qu'on a divisé le travail dit productif du travail dit reproductif. Et dans ce contexte, les plus productifs, je mets des guillemets, doivent déléguer les tâches les plus basiques pour se consacrer aux activités où ils et elles disposent d'un avantage comparatif. C'est-à-dire que le développement des services à la personne, par exemple le ménage, n'est possible que dans un contexte d'inégalité sociale croissante, quelle surprise, où une partie de la population va accaparer les activités bien rémunérées et contraindre une autre partie au rôle de serviteur. Et évidemment, ce refus de voir le travail domestique permet aussi d'entretenir l'illusion d'un intérieur propre et bien tenu, comme par magie. Alors que faire soi-même son ménage au lieu de déléguer permettrait d'avoir une prise sur le réel, par exemple. Évidemment, et c'est là que ça nous intéresse particulièrement, dans la plupart des cas, la femme de ménage a été remplacée tout simplement par la femme, sans que ce soit jamais dit, bien évidemment.
But little did I know that getting ready for the housekeeper to come is as much work as just cleaning the house.
Le mythe qu'on connaît de la déesse domestique, domestic goddess en anglais, remonte au 19e siècle et il a produit ensuite ce qu'on appelle un déséquilibre du bénéfice conjugal. Et si les femmes passent effectivement aujourd'hui moins de temps dans la cuisine, c'est surtout grâce aux plats cuisinés et pas à cause d'un meilleur investissement masculin, rappelons-le. À ce sujet, on peut citer les travaux du chercheur François Fatou, qui évoque dans un article de Libération le phénomène du présentéisme au bureau et parle de ces hommes qui se satisfont de rester au travail car rentrer tôt signifierait préparer le repas, assurer le suivi scolaire des enfants ou encore leur donner à manger ou pire, faire le ménage.
You rinse, you rinse, you rinse. Three times.
Alors évidemment, dans cette logique, les femmes sont invitées poliment à se conformer à un rôle de servante, mais aussi à s'y épanouir. Et évidemment, l'assignation des femmes au foyer se fait aussi par un chantage au bien-être de l'enfant. C'est le stéréotype bien connu du sacrifice, selon lequel tout faire pour les autres serait une façon de leur prouver de l'amour, alors qu'en réalité, cette exploitation va précisément compromettre les chances d'exprimer et de recevoir de l'amour. On va écouter le témoignage d'Olivia Cohen, journaliste radio pour France Culture, qui nous parle de son rapport au livre de Mona Chollet.
J'ai commencé à lire ce livre il y a 6 mois. Je venais de me séparer de mon petit ami, une histoire où j'étais restée 5 ans avec ce garçon. Et je me suis dit, je ne savais pas trop de quoi ça parlait. J'avais vu que c'était un essai sur le rapport au foyer. Et je me suis dit, je vais le lire comme une thérapie. Elle m'a beaucoup parlé sur le plan intime. Elle m'a appâtée avec ça en me disant, oui, tu avais le droit d'être triste que ton mec fasse pas le ménage. Et ensuite, elle va m'emmener, en fait, dans tout un tas de réflexions politiques, architecturales, sociologiques auxquelles j'avais jamais pensé. Elle parle de qui décide en fait de la construction des HLM dans lesquels on vit, qui décide de l'aménagement de nos villes, qui décide en fait de ces choses qui ont un impact si fort sur nos vies. Et en fait, elle nous rend moins cons, en fait, tout simplement. Elle nous fait prendre conscience de plein de choses en lien avec le foyer. Et comme d'habitude, elle nous donne un certain nombre d'outils pour décrypter la réalité qui nous entoure et on la subit moins. Et on devient plus intelligent, l'air de rien. Et c'est vraiment ça que j'apprécie dans ce livre.
Merci à Olivia Cohen pour ce témoignage. Heureusement, il y a quelques notes d'espoir dans le livre de Mona Chollet, notamment parce qu'elle propose d'autres formes de faire couple, de faire famille, mais aussi des formes d'habitat à inventer hors de la cellule familiale telle qu'on la connaît aujourd'hui. Elle parle notamment de l'habitat coopératif qui est beaucoup plus développé en Scandinavie qu'en France et qui permettrait un meilleur partage des tâches. Voilà, à méditer. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Dites-nous si vous avez lu « Chez soi » de Mona Chollet. Vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux @quadmeuf. Retrouvez tous les liens dans le descriptif de l'épisode et nous laissez des étoiles sur Apple Podcasts. Bon confinement, restez chez vous et écoutez des podcasts. Quadmeuf est une émission de nouvelles écoutes. Cet épisode est conçu par Clémentine Gallo, mixé par Charles de Cilia. Générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux, coordination et montage Ashley Tola.